Martino.
Des fois, quand on se sent contrarié, ben c'est peut-être parce qu'il touche à quelque chose.
Alors, nous parlons à l'analyste et chroniqueur politique Nick Payne. Salut, Nick.
Salut, Richard.
Écoute, tu te poses la même question que je me pose chaque fois que j'interviewe Paul Saint-Pierre Plamondon. À chaque fois que je termine l'entrevue, je me dis, voici un gars intelligent, posé, qui arrive avec des propositions qui sont sensées, étoffées, cohérentes, et comme toi, je me dis, comment ça se fait qu'avec un gars de même, le PQ ne réussit pas à lever plus que ça? C'est un mystère.
Oui. Oui, ben, enfin, moi, comme j'ai la science infuse, je crois avoir la réponse à cette question mystérieuse, Richard, mais c'est aussi parce que j'ai réfléchi depuis plusieurs années, parce que ça tient de la situation, évidemment, du Parti québécois, pas juste de Paul Saint-Pierre Plamondon lui-même, qui, comme tu le dis, écoute, il écrit de longs textes fouillés,
dans lesquels
il étaye des positions intéressantes, nuancées, complexes, qui vont aussi souvent, en sens inverse de la rectitude politique. Hein, il faut le dire, il y a du courage dans ses positions, surtout pour quelqu'un qui est à la tête d'un parti qui se dit progressiste, là, qui peut être traversé par certains courants hein, plus qui ont envie de censure un peu. Là, on connaît la méthode. Et donc, effectivement, ça ne lève pas. Et alors là, ça ne lève pas du tout. Comme premier ministre potentiel, il est dans la cave derrière à peu près tout le monde. Et le parti lui-même, bien sûr, obtient des taux d'appui, là, et c'est une tendance lourde, très bas, catastrophiquement bas depuis plusieurs mois, et c'est la suite d'une tendance qui a cours depuis plusieurs années. Alors, comment ça se fait que ça marche pas? Évidemment, c'est Pierre Plamondon, c'est sûr qu'il y a des questions, comme disent les Anglais, de casting, hein, il faudra voir à la longue si jamais il a la chance de rester un peu. S'il développe, s'il nous montre toutes les aptitudes d'un premier ministre en devenir, pour l'instant, il ne s'installe pas dans ce rôle-là. Mais plus fondamentalement, le problème de Saint-Pierre Plamondon, à part aussi qu'évidemment, il n'est pas très connu. Hein, bon, il faudra une campagne électorale pour que les Québécois vraiment apprennent un peu de qui il s'agit. Là. Mais son vrai problème, c'est son parti. C'est un parti dont on a beaucoup annoncé qu'il allait disparaître hein, au fil des années, même des décennies, mais j'ai bien peur que cette fois-ci, ce soit vrai. C'est-à-dire que là, être rayé de la carte électorale aux prochaines élections, ça se peut là, pour le Parti québécois. Et pourquoi? Parce que contrairement aux libéraux, qui ont toujours, par exemple, un appui solide chez les anglophones, les allophones, ils ont de l'avenir, les libéraux, malgré tout. Au Parti québécois, on est face à un phénomène de remplacement. Là. C'est-à-dire que ce parti-là a créé l'espace politique qui est aujourd'hui celui de la CAQ. Point sur la question nationale. Le Parti québécois a travaillé patiemment pendant de nombreuses années à dire, ben vous savez, la souveraineté, ça ne vous intéresse pas beaucoup. On va faire autre chose pour le moment. On va être nationaliste à l'intérieur du Canada, puis on verra plus tard. Et ça a légitimé la mythique troisième voie là, entre le fédéralisme et le souverainisme. Et puis François Legault, lui, a repris ce commerce-là en se débarrassant de l'espèce de flou référendaire fatigant là, qui est un poids plus qu'autre chose pour les péquistes. Alors, il s'est affranchi de l'obligation de parler de référendum et de souveraineté. Et puis, ça a plu. Et bon, et voilà, il a remplacé le Parti québécois. Alors, il reste aujourd'hui. Et puis c'est pareil sur le flanc gauche, qui est important au PQ à l'époque où ça marchait bien pour eux, là, qui est parti à Québec solidaire. Et puis on peut imaginer dans un avenir pas trop lointain que QS, un peu comme Mélenchon en France, finisse par avaler ce morceau-là du Parti québécois. Hein. Plus QS va se professionnaliser, puis on est à une époque où les positions se radicalisent, s'extrémisent là souvent. Alors, vois-tu? L'avenir est vraiment, il y a un chemin très, très, très étroit là pour le Parti québécois. Puis il n'y a qu'une seule planche de salut pour eux, c'est l'indépendance. Il n'y a rien d'autre. Et quand j'appelle ça une planche de salut, je suis pas certain que ça va donner quelque chose. Mais c'est tout ce qui reste au PQ. Tu peux pas faire du nationalisme provincial puisque la CAQ est déjà là, même si ça donne rien. Là, ça c'est une autre question. On en reparlera peut-être, mais. Et tu peux pas dire nous sommes les champions du progressisme parce que tu seras jamais le champion, Québec solidaire.
Mais c'est ça, le problème avec le PQ, c'est qu'effectivement, elle ne peut pas jouer la carte nationaliste parce que la CAQ la joue très bien. Donc, il doit jouer la carte souverainiste. Mais qu'est-ce que tu veux, la souveraineté, ça monte pas. C'est auprès des jeunes, là. C'est que le PQ doit se battre aussi contre l'époque. Il y a eu un changement. Okay. Il y a eu un changement.
Exactement.
Avant, le drapeau québécois faisait vibrer les foules. Le mot nation, nationalisme était des concepts porteurs. Maintenant, ce sont rendus des concepts radioactifs, infréquentables. Quand t'es nationaliste, t'es nécessairement fermé à la limite fasciste et d'extrême droite. Donc, t'as le PQ qui se retrouve à brandir des drapeaux qui sont maintenant mal vus.
Ah, parfaitement. C'était la deuxième partie de mon idée. En fait, je suis parfaitement d'accord avec toi là-dessus. C'est qu'au moment où tout ça culmine pour le Parti québécois, cette espèce de phénomène de remplacement et de perte de pertinence, t'as aussi la révolution. On vit aujourd'hui quelque chose qui ressemble, dans d'autres paramètres, à ce qu'ont vécu les baby-boomers dans les années 60 par le nombre. Ils sont arrivés puis ils ont tout chamboulé avec un certain progressisme qui veut faire table rase et tout ça. Aujourd'hui, il se produit la même chose, mais pas par le nombre, c'est par la surreprésentation des jeunes générations, militantes souvent, sur les réseaux sociaux. Et qui donnent le la, en quelque sorte, hein, du débat public. Ils sont pesants et ils ont, dans leur volonté de faire table rase, très clairement classé le Parti québécois comme une chose désuète. Tout bon jeune urbain progressiste aujourd'hui ne peut pas dire qu'il s'intéresse au Parti québécois, aux affaires sur l'identité de Paul Saint-Pierre Plamondon. Ça serait la honte de dire ça, comprends-tu? Alors, par-dessus tout ça, le PQ est maintenant classé, périmé, par une partie importante de l'auditoire, si tu veux. Alors oui, il y a ça qui entre en ligne de compte. Quant à, pour ce qui est de la question du nationalisme qui est radioactif, ça, il faut dire que ça ne date pas d'hier, surtout au Québec. Là, au Québec, on a un problème avec tout ce qui représente l'affirmation nationale. On a toujours peur de faire de la peine au monde, d'avoir l'air méchant. Ça, c'est moins nouveau. Mais aujourd'hui, ça revit plus que jamais à gauche, là. Ça, c'est certain.
Écoute, je veux parler des Autochtones et la loi 96. Là, on leur demande là, de suivre 3 cours de français ou en français. Et là, ils disent, non, nous autres, là, on parle notre langue maternelle et on parle l'anglais et on veut rien savoir. Ils veulent être exemptés de la loi 96. Écoute, je vais te dire franchement, moi, je me dis, là, Legault veut pas les exempter, il veut rien savoir. Il dit la loi 96 s'applique à tous les gens qui vivent sur le territoire du Québec. Bon, je peux comprendre ça, mais en même temps, ce serait-tu un gros scandale de dire, gars, ils étaient là avant nous, ils ont des droits ancestraux, c'est correct, on va les exempter de la loi 96. Je crierais pas dans mon coin si Legault disait ça. Est-ce qu'il est entêté, selon toi?
Oui, bon, c'est pas une grosse part de la population, on s'en remettrait. En même temps, je comprends l'idée du principe et par ailleurs, le principe d'être ferme. Et puis bon, ici, c'est au Québec, c'est comme ça. Si vous êtes devenu si volontairement anglophone, parce que c'est de ça dont on parle, hein, ce sont des Autochtones anglicisés. Là.
Surtout les Mohawks, là. Surtout les Mohawks.
Oui, oui. Quand tu vas dans ces endroits-là, ce sont des enclaves. Là, on est complètement ailleurs, dans une Amérique anglaise triomphante. Hein? C'est beau dire, se dire Mohawk, là, mais oui, là, mais en même temps, c'est très, 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 très américain. Et on va se le dire, Richard, c'est souvent le cas dans les territoires où il y a des peuples dominés politiquement, comme les Québécois. Les minorités encore plus petites ou encore plus mal prises ont tendance à les prendre en grippe également. Et c'est un peu le diviser pour mieux régner, hein, en politique. Et au Québec, il y a une partie des peuples autochtones anglophones comme ça qui ont franchement des sentiments pas très, très chics à l'endroit des Québécois francophones.
Il faut le dire. Bon, oui, c'est vrai.
Oui. C'est à la limite, c'est pas gentil. Et ils veulent rien savoir de ça. C'est un peu comme une caricature, si tu veux, des pires travers de certains anglos souvent dans ces zones-là.
Mais là, ça veut dire, là, c'est parce qu'eux autres, là, contrairement aux anglophones du West Island ou de Westmount, ils n'auront pas peur de bloquer des ponts. Là. Ils peuvent, tu sais, on s'en va vers une confrontation directe avec les Autochtones là-dessus.
Exactement. Bon, en même temps, tu peux dire à moyen ou à long terme, bon, ben justement, pour essayer de faire se résorber ce phénomène-là, essayons de les amener un petit peu tranquillement peut-être s'intégrer légèrement à un début de commencement d'un petit bout de notre culture, tu sais. Donc, je comprends la position de Legault là-dessus, mais les vents contraires vont être féroces. Puis bon, écoute, si jamais ça ne sont pas...
Mais c'est fou, la réaction des anglophones. T'as vu la une du National Post hier, la pire loi, la plus autoritaire de l'histoire du Canada, tu sais. Tu dis, attends, mais là, tout ça pour 3 cours de français au cégep. Et Nick, ça fait des années qu'on nous répète que les anglophones au cégep, ils sont parfaitement bilingues, mais quel est le problème alors de leur donner 3 cours en français? Ils devraient le passer les doigts dans le nez, ces cours-là?
Oui, mais ça, moi, j'ai jamais cru ça, parce que je vis à Montréal, j'en côtoie beaucoup des anglophones, c'est absolument faux de dire qu'ils sont plus bilingues que nous, c'est même risible. Mais ça marchait bien parce que on est de nature complexée, encore une fois. Puis bon. Mais ce que tout ça nous dit, tant les Autochtones qui parlent de génocide culturel que les anglophones, les grands journaux canadiens qui font des premières pages catastrophistes avec ça, c'est que plus les tentatives d'affirmation nationale des Québécois sont timides, plus on nous rentre dedans. En fait, plus la réaction canadienne anglophone est arrogante. À l'époque du... C'est normal, c'est comme ça. Hein? Quand tu sens que l'adversaire est à terre, t'en remets une couche. À l'époque référendaire, à l'époque où la souveraineté du Québec était dans les 50% dans les sondages, une époque pas si lointaine, les Canadiens étaient fâchés contre nous. Ils s'écrivaient, ils se disaient des choses dures, mais il y avait une forme de respect. On nous appelait monsieur, d'une certaine façon. Hein? Maintenant, on est moins fâchés, plus décomplexés, puis on y va, on en beurre épais, comprends-tu? On prend pas de chance. T'sais, à la moindre petite tentative des Québécois de se manifester un peu, on sort le bazooka, puis on pense qu'on va régler ça, puis on n'a peut-être pas complètement tort. Est-ce que Legault, le projet de loi 96, ça va pas si loin que ça non plus. Hein,
mais non. C'est
drôle, là-dedans.
Mais non.
Ce que ça dit plus largement, c'est que les nationalistes qui entourent François Legault, qui en bonne partie proviennent du PQ ou de l'univers du vote de l'électorat souverainiste, si tu veux, sont allés là, eux, comme les péquistes d'ailleurs, quand ils ont mis leur objectif premier sur la glace, parce que ils disaient, ça antagonise nos relations, ça empoisonne nos relations avec le Canada, on a perdu du temps avec ça, tout est bloqué. Allons-y d'un nationalisme provincial qui va être mieux accepté, qui va nous permettre de faire des progrès, puis on verra plus tard.
Or, oui, mais
ça marche pas pantoute.
Mais non.
Quoi qu'on passe, il y a toujours le bazooka qui sort.
Exactement. Puis, tu sais, Michel David, dans Le Devoir aujourd'hui, là, il écrit une chronique, le pis-aller canadien, puis il dit les Québécois sont résignés. Ils sont comme résignés à rester dans le Canada, même si on se fait dire non à chaque fois qu'on a des demandes. François Legault veut avoir plus de pouvoir en immigration. Non. Il veut que le fédéral ferme le chemin Roxane. Non. Malgré ça, on n'a pas le courage de partir. Fait qu'on est résigné.
Bien sûr, comme François Legault et tout le monde est content. Hein? Il n'y aura pas de prix électoral à payer pour ces échecs répétés là,
ben
pour le groupe. Parce que le nationalisme, je répète mon expression, mais le nationalisme provincial, tel qu'il est vécu dans la réalité, là, c'est une posture. On lève la tête un peu, on se montre fier, on ne veut pas être humilié, on jappe, hein, mais on mord pas. Il n'y a pas d'obligation de résultat avec ça. Les Québécois qui ont compris que notre avenir est provincial canadien, accepte l'idée que, en dernière instance, c'est le Canada qui décide, puis c'est comme ça.
Mais oui, mais on joue une pièce de théâtre dont on connaît tous l'issue. On sait, là, on se raconte des histoires. Hey, il va aller demander des pouvoirs. Puis on le sait qu'il va se faire claquer à la porte d'en face. C'est comme Symphorien, Christy. Il se fait claquer à la porte d'en face, il revient. Puis on sait l'issue de tout ça. Puis on sait que ça marchera pas. Mais on hausse les épaules, puis on reste. On est vraiment bizarre au Québec.
Non, ben il y a les rires en canne qui viennent tout de suite après. On est comme dans le dîner de cons un peu, hein. On dirait qu'on est seul à pas le savoir. Mais on le sait un peu, tu comprends, qu'on est un peu les dindons de la farce là-dessus. Mais à partir du moment où ça se fera pas, ben ça se fera pas. Je parle de l'indépendance ou d'un réaménagement là du Canada qui serait vraiment dans le sens de nos intérêts nationaux. Donc on accepte là que au bout de la ligne ça foire toujours un peu, mais au moins on On se donne l'impression de se tenir debout mais, avec quelqu'un
oui.
qui chicane Justin Trudeau.
Mais qui a jusqu'au bout de sa logique, OK, il veut pas faire la souveraineté, OK, c'est correct, fait des référendums sectoriels. C'est une façon d'aller dire, ben regardez, la population du Québec, là, elle veut plus de pouvoir en immigration. Au moins, il fait même pas ça. Ouais.
Non, parce que, ben, enfin, c'est ma thèse, mais c'est parce que la CAQ, qui est une coalition de souverainistes, mais aussi de fédéralistes, ne peut pas, après avoir promis qu'il n'y en aura pas de référendum sur l'indépendance, il n'y en aura pas d'indépendance, tu ne peux pas aller sur ces terrains-là parce qu'inévitablement, elle va se poser cette question-là avec beaucoup d'acuité. Parce que là, ben, qu'est-ce qui va arriver? On va gagner, supposons qu'on obtient un oui dans un référendum sur plus de pouvoir en immigration. Ottawa va continuer de dire non, là.
Ben oui.
Ou en tout cas, ils vont céder des peccadilles. Et là, ben, ça fait une démonstration autrement plus efficace du problème de notre statut dans le Canada qu'une petite colère de temps en temps de François Legault, puis on passe à autre chose. Alors là, tu soulèves le débat de fond sur la question nationale et donc tu réactives le clivage souverainiste fédéraliste et là la CAQ devient caduque. Il y a des gens qui vont s'aligner du côté fédéraliste, d'autres du côté souverainiste. Tu recomposes à ce moment-là tout notre échiquier politique et électoral.
Écoute, Nick, on revient toujours à la chanson de Jean-Pierre Ferland, Pissou. C'est-à-dire que les baguettes en l'air, puis on rouspète, puis on pète de la broue, puis tout ça, mais finalement, on prend son trou. C'est ça qu'il chantait, Ferland, dans Pissou, et c'est vrai, c'est ça.
Ben, c'est vrai aussi pour notre élite politique, parce que ça prend des leaders, ça prend... Ceux qui disent qu'il faut pas attendre le sauveur, et qu'en politique, il faut que tout le monde soit le chef, puis que les décisions viennent du bas, c'est un peu de la frime. Il y a un seul homme... ou une femme éventuellement peut changer beaucoup de choses et on l'a vu avec l'obstination de Parizeau. Parizeau, c'est un extraterrestre. Hein? Tout le monde lui disait n'y va pas, ne le fais pas, y compris Lucien Bouchard. Il est allé quand même et il a failli réussir. Bon, il n'a pas gagné, mais Parizeau, c'était pas non plus le Dalai Lama. C'était quelqu'un qui était respecté, mais c'était pas une bombe de charisme et de... Non, il y avait une certaine
déconnexion. Oui, mais Legault, tu sais, il sait qu'une troisième défaite au référendum, ça risque de tuer l'option. Et il le dit, je ne serai pas l'homme qui va tuer cette option-là. Et on peut le comprendre. S'il va au battre, puis on est retiré pour la troisième fois, c'est fini, là. Ça va être humiliant, puis il veut pas nous amener là. Et je le comprends.
Ben, de toute façon, il n'y a pas de danger qu'il y aille. Mais en même temps, cette proposition-là, c'est un peu la pensée circulaire péquiste. C'est-à-dire, allons-y pas, parce que si on va perdre, ça va être la fin du monde. Mais en n'y allant pas, il se passe rien, puis l'option est en train de disparaître aussi. Et on s'anglicise rapidement. En ce moment, là, moi, je trouve vraiment qu'on est sur une pente glissante. J'ai jamais été dans ceux qui étaient catastrophistes autrefois. Je pensais que l'indépendance, ça serait bien, mais qu'on n'était quand même pas à l'article de la disparition demain matin. Là, je commence à trouver que ça sent... Il faut entendre les jeunes parler en franglais, là, partout, là. Et quand tu vois les dernières statistiques sur l'intérêt de la jeunesse pour la culture québécoise, la musique en français, nos auteurs, nos cinéastes, c'est catastrophique.
Oui, complètement.
Donc, ça commence à presser. Alors, tu sais, la peur de perdre, à un moment donné, il faut faire avec en politique.
Tout à fait. Écoute, Pierre Perrault avait fait un film qui s'intitulait Un pays sans bon sens. C'est vraiment ça, un pays sans bon sens. Écoute ça, on a un petit audio à te faire entendre. Écoute.
Si le gouvernement fédéral est pas capable de gérer rapidement l'immigration, mais qui nous transfère les pouvoirs.
On tremble à Ottawa.
Oui, c'est exactement ça. Merci Charlie à la régie. Merci beaucoup Nick Payne. On se reparle bientôt. Ouais. Bye. Salut.